Nous sommes ici à Mignac-sous-Bécherel, en compagnie d'Henri Bunel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes membre fondateur et membre du collectif de soutien aux victimes des pesticides, un collectif que nous allons présenter justement dans cet entretien. Tout simplement, Henri Bunel, est-ce que vous nous présentez ce collectif de soutien aux victimes des pesticides? Comment s'est-il formé? Vous pourriez nous faire un petit historique?
L'histoire remonte à déjà un peu plus de 10 ans, même 11. Et donc au début, on était une poignée de personnes, mettons une vingtaine. Et on avait été assez choqués par ce qui se passait du côté de l'usine de Triskalia, où des salariés avaient été empoisonnés par des traitements sur des graines et qui les avaient rendus bien malades. Et comme ils étaient bien malades, ils ont été licenciés. Donc on a vécu toutes les phases en justice, enfin pour défendre leurs droits. Mais on ne s'est pas limité à ça. Disons qu'on voyait bien aussi qu'il y avait des problèmes avec les épandages de pesticides. Donc déjà, du côté d'agriculteurs, beaucoup se trouvaient malades de différentes maladies. On a appris à découvrir lesquelles. Mais il y a aussi la question des riverains qui reste une très grande question. Donc au début, on était une vingtaine. Et puis maintenant, on est 750. On était un département ou un bout de département. Maintenant, on est une douzaine de départements. Et donc, on essaye, nous, de soutenir les malades, donc on les accompagne en justice. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire, mais on essaye également d'agir sur les causes, parce que les pesticides, c'est l'une des clés de voûte du système agricole actuel. Et quand on agit sur cette question-là, on agit aussi sur tout un ensemble, et c'est pas forcément apprécié de tout le monde.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les maladies liées aux pesticides et à l'épandage des produits phytosanitaires?
Nous avons découvert les maladies par les malades. Et il se trouve que plus de 90% sont des agriculteurs. Parce que le lien entre les produits utilisés et puis les maladies qui ont frappé ces personnes-là a été fait, quoi. Donc on a beaucoup de personnes, plus de 40% qui ont la maladie de Parkinson, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. On a aussi beaucoup de cancers de la prostate. Mais on a aussi des cancers du sang, on a aussi des cancers du cerveau. Et puis, dans la phase plus récente, on s'aperçoit que ça ne touche pas que les agriculteurs, mais aussi leurs familles et aussi leurs enfants. Donc il y a des maladies pédiatriques qui sont contractées, je dirais, in utero. Et beaucoup d'enfants naissent malades des pesticides.
Le profil, donc, vous disiez, les agriculteurs, j'imagine que ce ne sont pas les seules personnes touchées, même si ce sont les personnes en première ligne du fait de l'usage des produits phytosanitaires.
Oui, c'est disons que le lien entre les produits utilisés et les maladies peut être plus facilement établi pour des agriculteurs que pour d'autres. Le problème, il est quand des riverains qui ont les mêmes maladies que les agriculteurs, eux sont touchés à leur tour. Donc il faut prouver qu'à un moment donné, ils ont été en contact également avec des produits et que c'est des produits qui ont eu des conséquences. Or, faire le lien entre quelqu'un qui est dans sa maison comme assistante maternelle qui garde des enfants, par exemple, il n'est pas si facile que ça à établir, parce qu'il y a des quantités de produits qui sont épandus à côté de cette personne. Et donc, trouver quel est le produit et puis quelles sont les conséquences, ça, c'est beaucoup plus difficile, d'autant plus que la grosse difficulté avec les pesticides, c'est que les maladies se déclenchent 10 ans, 15 ans, voire plus de 20 ans après. Donc établir le lien 20 ans après, là aussi, c'est compliqué. Mais ça s'établit parce que, en dépit du discours ambiant qui disent « on ne sait pas, la science se trompe », etc., en réalité, non, il y a des études qui sont tout à fait bien documentées et qui établissent le lien. Comme on sait que les organismes qui, comme la mutualité sociale agricole, et donc elle a un secteur très particulier qui s'occupe des pesticides, c'est le FIVP, le Fonds d'indemnisation des victimes des maladies professionnelles, des victimes de pesticides, eh bien, les gens sont très attentifs à éviter que n'importe qui aille vers eux. Donc les choses qui sont reconnues, et actuellement on en a plus de 300, hein, en moins de 10 ans, et on est très loin du compte, eh bien, c'est, le lien, là, a été fait, il est avéré, et puis, bon, ben, très souvent, il y a de la résistance, mais on va en justice, on a des avocats, et les tribunaux reconnaissent qu'effectivement, ce lien-là, il est tout à fait clair et établi, quoi.
Le lien donc de ces maladies avec ces produits utilisés phytosanitaires, les pesticides. Justement, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de pesticides ?
Les pesticides, c'est un terme qui est très générique. En fait, ça va des herbicides, des insecticides, tous les produits qui sont faits pour détruire des parasites en agriculture. Hein. Alors ces produits-là, on va les retrouver dans l'environnement immédiat, mais on va aussi les retrouver dans l'alimentation, on va aussi les retrouver dans l'eau, qui est un très gros sujet, parce qu'actuellement, sur la Bretagne, et en particulier sur l'Ille-et-Vilaine, on a moins de 6% des masses d'eau qui sont destinées à la consommation humaine, qui sont dans un état correct, ce qui veut dire qu'il y a 94% de cette eau qui se trouve polluée par des pesticides en grande partie.
Comme vous le disiez, la Bretagne est une région agricole, une terre agricole. Est-ce que vous pourriez nous donner la mesure de l'usage de ces pesticides, nous donner un ordre d'esprit qui forme justement l'environnement des personnes habitant en Bretagne ?
Oui, disons que donner ça en tonnage, ça ne va pas avoir beaucoup de sens. Ce qu'on peut au moins dire, c'est que depuis presque 20 ans, le tonnage n'a pas baissé. Hein. Il y a des choses qui bougent un petit peu, mais c'est un peu en trompe-l'œil, parce qu'on a peut-être moins de tonnage, mais on a plus de concentration. Et puis le pire, c'est que pour arriver à brouiller les pistes, on a un changement de mesure qui a été décidé il y a 2 ans à peu près. Et actuellement, si on utilise le nouvel instrument de mesure, alors que rien n'a bougé, cet instrument de mesure nous fait croire que l'utilisation des pesticides a diminué de 32%. Le thermomètre n'est pas le même. Il suffit de le casser ou de le changer pour montrer que ça évolue, quoi. Or, ça n'évolue pas.
Alors, est-ce que vous pourriez nous faire le tableau, justement, de cette filière agricole qui est amenée à utiliser ces pesticides de manière massive et qui a pour effet d'empoisonner les sols, l'eau, l'air ?
Je crois qu'il faut d'abord parler d'un phénomène, c'est que les pesticides ont augmenté au fur et à mesure que la taille des exploitations a augmenté. Pour avoir une rentabilité meilleure des exploitations agricoles, il a fallu recourir à des produits chimiques pour éviter d'avoir trop de main-d'œuvre. Donc actuellement, on veut entretenir une exploitation qui a doublé de volume en conservant le même personnel, on va augmenter fortement la consommation des pesticides. Donc c'est lié essentiellement à l'accroissement de la taille des exploitations agricoles. Alors, ce qui fait que cette agriculture que nous, on appelle chimique ou productiviste ou d'autres, elle se différencie beaucoup du bio et de l'agriculture biologique qui a passé un cap de grosses difficultés les années passées. Mais donc, les bio sont forcés d'avoir plus de personnel à entretenir les exploitations parce qu'il y a beaucoup plus de désherbage mécanique, par exemple. Voilà. Et puis, l'un des problèmes qui se trouve derrière l'utilisation des pesticides, il est aussi que les pesticides, ils ont des quantités de coûts cachés. Hein. On a l'impression que c'est miraculeux parce qu'on produit davantage et puis avec moins de main-d'œuvre. En réalité, ce qui n'est jamais pris en compte, mais il y a eu quand même des études économiques qui ont été faites et qui sont maintenant de plus en plus connues, c'est que les dégâts, je dirais, collatéraux sur l'eau, sur le paysage, sur la faune, la flore, etc., eh bien, ils sont absolument colossaux. Les pesticides coûtent en gros à la société deux fois plus cher qu'ils ne rapportent. Quand on dit le bio coûte cher, ça veut dire qu'il est cher au consommateur, mais il n'est pas cher pour le contribuable. Alors que l'utilisation de pesticides en agriculture, bien, elle a des coûts qui sont portés par ceux qui sont pollués, hein, et donc par les contribuables qui doivent réparer les dégâts. Quand on consomme de l'eau actuellement, on a de plus en plus de coûts qui sont liés au traitement de l'eau, parce qu'il faut agrandir les usines pour qu'il y ait des tonnages très importants qui soient traités.
D'où viennent ces produits dits phytosanitaires, qu'on appelle les pesticides ?
Eh bien, ils viennent de ceux qui les fabriquent, à savoir des grands groupes, Bayer, Syngenta, etc., qui ont une forte influence sur le milieu agricole. La preuve en est, c'est que le président de la FNSEA est à la fois du côté de l'industrie chimique et de l'agriculture. Hein, donc, personne de ce côté-là n'a intérêt à ce que l'utilisation des pesticides diminue, parce que c'est un gros pan de l'activité économique. Hein, et en France, on fabrique même des produits qui sont interdits d'utilisation en France, et puis on les exporte au Brésil, par exemple. Il y a quelques mois, on a bloqué symboliquement pendant une demi-journée une usine de fabrication de produits chimiques interdits, fabriquer du fipronil qui part au Brésil. Voilà, ce qui n'est pas bon en France peut être bon ailleurs, quoi. Bon, une autre particularité, c'est qu'à la fois, ils fabriquent les produits chimiques traitent les surfaces agricoles, mais en même temps, c'est les mêmes qui fabriquent des médicaments. Donc on a vu, nous, des gens qui étaient hospitalisés, ils ont été rendus malades par Bayer et ils sont soignés par Bayer à l'hôpital. Voilà, ils ne sont jamais perdants.
De savoir. Justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi, vous rencontrez les agriculteurs, notamment des travailleurs agricoles qui ont cet usage des pesticides. Quelle est la charge justement du risque est-ce qu'elle pose l'usage de ces pesticides-là, ce sont les agriculteurs qui finalement s'en retrouvent les seuls responsables ?
Eh bien, ils sont au bout de la chaîne. C'est tout le problème des gens qui sont au bout de la chaîne. Moi, je ne dis pas que les agriculteurs sont responsables du système. Ils ont hérité du système comme beaucoup d'autres. Et je dirais que dans les débuts, je situerais ça dans les années 65-70 à peu près, le recours aux produits chimiques était miraculeux parce que tout d'un coup, alors que dans l'agriculture, moi je suis aussi d'une famille d'agriculteurs, le travail est pénible. Tout d'un coup, grâce aux produits chimiques, il y avait du toute une partie du travail qui était largement simplifiée, quoi. Mais alors, le discours ambiant était que c'était des produits qui n'étaient pas dangereux. Bon, tout ce qui a été dit sur le Roundup, qui est en fait le glyphosate, qui a le glyphosate comme molécule principale, on disait même qu'on pouvait en boire. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait les essais. Je pense bien qu'il y a quelques têtes brûlées pour faire ce genre de choses. Mais c'est passé facilement, quoi, parce que on disait que c'était le progrès, que c'était pas dangereux. Ben, pourquoi refuser, quoi ? Et en même temps, ça réduisait la pénibilité du travail. Et c'est 15, 20 ans plus tard que des gens ont commencé à être malades. Et c'était un vrai sujet tabou, parce que comme c'était un instrument du progrès, comment peut-on faire croire à quelqu'un que c'est ça qui vous a rendu malade ? Et nous, on a vu qu'il y avait une omerta sur l'utilisation, sur les maladies liées aux pesticides, parce que les gens ne pouvaient pas faire admettre que, dans le cadre de leur travail, avec les produits qu'ils ont utilisés, eh bien, ils pouvaient tomber malades. Surtout que les syndicats dominants continuent de dire « mais il ne faut surtout pas réduire l'utilisation de ces produits-là, c'est absolument indispensable à l'agriculture, parce que si on empêche ça, on va empêcher l'agriculture ». Donc ça nous est arrivé, nous, de rencontrer des gens qui nous disaient « j'ai fait appel à vous, collectif de soutien aux victimes des pesticides, parce que je suis malade, mais je ne suis pas malade des pesticides ». Bon, il a fallu 2 ou 3 ans pour que la personne admette elle-même, parce qu'elle ne pouvait pas arriver à imaginer que son propre travail, qu'elle a eu à cœur de mener et de faire bien, quoi, que c'est ça qui l'avait rendu malade. Et puis, si elle sait que ses produits ont rendu malade, ça a aussi risqué de rendre malade sa famille, ses voisins. Hein. Donc, se faire reconnaître comme malade, ça a été très compliqué. Au début, on a eu très peu de gens qui se sont déclarés malades. Et puis, au fur et à mesure que les mois et les années passent, les gens se disent « bah oui, celui-ci, il est malade, il a exactement les mêmes symptômes que moi. Donc, moi aussi, je vais faire une demande de reconnaissance en maladie professionnelle ». On a un phénomène d'entraînement qui est tout à fait clair, quoi. Parce que plus de malades sont déclarés dans le voisinage, et plus les gens se disent « bah oui, mais c'est exactement ça qui m'arrive, quoi ». Donc, les gens font la démarche pour se faire indemniser et en se faisant reconnaître en maladie professionnelle.
Est-ce que vous pourriez donc, vous êtes c'est une association qui milite pour un soutien aux victimes des pesticides, aux travailleurs notamment agricoles. Est-ce que vous pourriez nous dire la situation, vous avez vu l'évolution en 10 ans, comment dire, la situation aujourd'hui de cette prise en compte de l'environnement, des nécessités de changer, de quels sont aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous faire un tableau des rapports de force existants aujourd'hui entre agriculture industrielle, agriculture bio, comment tout cela est pris en compte par les pouvoirs publics notamment?
La logique voudrait que on aille de plus en plus vers l'agriculture biologique. Si on écoute les scientifiques, on voit bien qu'il y a des produits qui sont dangereux. Vous voyez, avec la loi du plomb 1 et du plomb 2, etc., on veut réintroduire des néonicotinoïdes, on veut réintroduire l'acétamipride, alors qu'on sait que c'est dangereux. Mais le discours contre la science est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Quand on voit notre président des États-Unis actuellement qui tient un discours anti-science, on s'aperçoit que ce même discours pénètre encore beaucoup les esprits. On dit que les scientifiques n'ont pas leur mot à dire. On va demander, par exemple, aux élus de dire si l'acétamipride peut être réintroduit ou pas, y compris contre la science, quoi. Donc il y a un discours anti-science qui est quelque chose d'assez catastrophique. Il y a une négation des problèmes de santé, hein. Donc on approche la réalité uniquement à travers le prisme économique, et en tout cas juste une partie du prisme, puisqu'on ne tient pas compte des conséquences négatives des pesticides sur la nature. Donc ce discours qui devrait évoluer dans le sens d'une agriculture plus naturelle, je dirais, eh bien, au contraire, actuellement, on voit que les choses se bloquent et qu'elles se figent, et que on mène une politique agricole, y compris au niveau européen, qui va favoriser les grosses exploitations et l'exploitation chimique.
Quelle est la réception de votre action, vous, collectif de soutien aux victimes des pesticides, notamment auprès des élus locaux, en Bretagne notamment, dans le Grand Ouest?
Auprès des élus, je crois que si on prend la question de l'eau, on s'aperçoit que les élus sont quand même sensibles au fait que le traitement de l'eau coûte de plus en plus cher et puis qu'il faut quand même une eau de qualité. Donc il y a des élus qui y tiennent, mais on s'aperçoit qu'il y a des élus qui ont une double casquette. Il y en a qui sont élus au titre de l'intérêt général et d'autres en tant qu'élus de la profession agricole qui siègent dans des conseils municipaux et qui agissent comme des lobbies. Donc il y a deux catégories d'élus qu'on distingue quand même assez clairement. Mais je dirais, au-delà des élus, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'attitude de la population. On sent la population de plus en plus sensible à ce phénomène de pollution et puis à ces pollutions qui viennent de l'agriculture. Quand des gens voient des traitements se faire autour de chez eux, même quand il y a un vent relativement fort, des gens épandent quand même, que des gens épandent à 5 mètres et des fois beaucoup moins de leur propriété, ils se disent « mais qu'est-ce que je risque ?» Or, il faut savoir que les riverains, eh bien, ils ont le droit de recevoir les produits, alors que normalement, il ne devrait pas y avoir de dérive, mais ils n'ont quasiment pas le droit de savoir par quels produits ils sont pollués. Quand on demande des registres d'épandage, eh bien, on n'arrive pas à obtenir de savoir quels sont les produits qui sont arrivés chez soi. Donc ça, c'est une anomalie absolument scandaleuse. Donc il existe des possibilités de recours auprès d'un organisme qui est proche de la direction de l'agriculture, qui s'appelle Phytosignal selon les régions, ou Phytoréponse, où on peut signaler qu'il y a un problème. Mais on reçoit de moins en moins les réponses parce qu'il y a de plus en plus de demandes.
D'accord. Donc vous parliez de cette source d'information là qui permet de... Est-ce qu'il y a une carte établie de tous les plans d'épandage, notamment des produits?
Mais on n'y a pas accès. On n'y a pas accès. Donc il y a parfois des cartes qui apparaissent, qui sont souvent réalisées. Ça peut être réalisé par l'administration, mais ça peut être aussi par des associations environnementales. Et donc c'est plus une carte des achats d'intrants, donc des produits phytosanitaires. Et ces cartes-là nous renseignent. Il y a des régions où on consomme plus que d'autres, quoi. Mais ça ne mesure pas véritablement les effets. En tout cas, actuellement, il y a une dégradation de l'environnement qui est quand même assez forte. Bon, tout le monde connaît maintenant le phénomène des algues vertes en Bretagne. On sait que ça n'arrive pas par hasard. C'est l'excès de consommation de nitrates.
Vous parliez de l'eau à l'instant. Quelles sont justement les actions sur lesquelles vous travaillez actuellement, le collectif de soutien aux victimes des pesticides ?
Nous participons en tant qu'auditeurs silencieux, puisqu'on ne siège pas, on n'a pas été élu pour ça. En tant qu'auditeurs silencieux, aux rencontres de la CLÉ, qui est la Commission locale de l'eau. Et la CLÉ donc essaye de protéger les bassins versants, donc qui par exemple alimentent la Vilaine, mais ça impacte quand même 5 départements et même 6, puisqu'il y a également la Mayenne qui est qui est concernée. Donc, on voit quelles sont les mesures qui sont à prendre vis-à-vis des pesticides, mais il n'y a pas que les pesticides qui sont concernés. Il y a aussi la question des zones humides. Il y a une grosse revendication actuellement qui demande qu'on puisse utiliser les zones humides pour faire des réserves d'eau, alors que les zones humides sont des lieux, je dirais, d'épuration, d'assainissement. Ça devrait être en tout cas des lieux d'assainissement de l'eau, hein, de purification. Or, des gens réclament absolument que ces zones humides soient utilisées pour faire des bassines. Tiens donc, ce qu'on voit dans le centre de la France, il y a des gens qui rêvent qu'on puisse le faire. J'espère bien que ça ne se fera jamais. Mais la loi du plomb, au-delà de l'acétamipride et puis de certains néonicotinoïdes, demande aussi la facilitation de création de réserves d'eau sous forme de bassines.
Avec des concentrations, justement, aussi probablement de pesticides dans ces bassines ?
Ben forcément, puisqu'on ne va pas se poser la question de quelle culture on peut faire. On sait bien que le maïs demande beaucoup d'eau. Or, on sait que même dans la région ici, qui est pourtant arrosée de façon convenable, eh bien, on peut manquer d'eau et on continue tout de même de faire ces cultures. Mmh.
Très bien. Quelles sont les prochaines actions ? Vous parliez du collectif.
On a des actions continues qui sont celles d'accompagnement des malades des pesticides. Actuellement, donc, on en a accompagné plus de 300 qui ont obtenu la reconnaissance en maladie professionnelle, mais en contact, on est plutôt à 500 actuellement, ce qui est quand même assez important. Et on s'aperçoit que certains départements, comme le Finistère, où il y a une zone légumière du côté de Saint-Paul-de-Léon, qui est fortement impactée par les pesticides, eh bien, on a des déclarations de maladies professionnelles qui explosent absolument, quoi. Dans nos autres actions, on a aussi tout un travail qui est fait auprès du personnel médical. Donc, on a mis 10 ans à obtenir les contacts. Et on est en train actuellement, avec des médecins, de faire de la formation de médecins ou généralistes ou spécialistes. Et donc, on va essayer de diffuser cette formation sur davantage de départements. Et j'espère que petit à petit, ça va aller un petit peu partout, parce que les médecins sont quand même les premiers interlocuteurs des personnes qui sont malades. Et quand les médecins qui ne sont pas formés sur la question des pesticides et puis de la relation entre pesticides et puis maladies professionnelles, eh bien, il vaudrait mieux que ces médecins puissent avoir une information suffisante pour aller directement droit au but, quoi.
Justement, vous parliez d'une carte. Enfin, comment dire, quels sont les endroits, vous parliez du Finistère, quels sont les endroits dans l'Ouest qui sont les plus touchés par les cancers, les lymphomes, les myélomes, toutes ces maladies liées aux pesticides ?
Eh ben, c'est difficile de le savoir. Nous, on le sait à partir des gens qui veulent se déclarer leur maladie. Hein. L'explosion qu'il y a du côté du Finistère, c'est parce que des gens font des demandes. Mais ce qu'on voudrait absolument, nous, c'est qu'il y ait une cartographie par exemple, des cancers, qu'on puisse savoir département par département quels sont les territoires qui sont les plus touchés par des cancers. Or, actuellement, on n'a pas accès à ces registres-là. Ce qui est quand même assez frappant, c'est de voir sur des micro-territoires, on voit sur 500-600 mètres, 5-6-4 cancers. On voit dans un cabinet médical une dizaine de lymphomes, donc pas de lymphomes, de glioblastomes, qui sont des maladies du cerveau. Hein, donc c'est quand même assez frappant, c'est qu'il y a une cause locale qui est absolument évidente. Hein. On a entendu parler des cancers pédiatriques dans la région de Sainte-Pazanne. Tout le monde a dit « circuler, il n'y a rien à voir », non, rien n'est prouvé, parce qu'ils essayent de diluer un petit territoire au milieu d'un territoire beaucoup plus grand. Comme ça, les statistiques parlent moins. Mais on voit bien qu'il y a des zones qui sont très impactées, quoi.
Fonction justement des cultures qui peuvent des cultures et de l'usage des produits existants sur tel endroit.
Ben, ça peut être ça, mais justement, la question, c'est qu'on constate les maladies, mais il faut remonter au lien. Hein. Donc, il y a des scientifiques qui travaillent, des scientifiques de l'INRA, de l'INSERM et autres, sur des causes de maladies. Mais on voit, par exemple, dans la plaine d'Aunis, des maladies pédiatriques qui sont déclarées en grand nombre. On sait qu'il y a aussi des conditions de culture, enfin, qui sont très favorables à ces maladies-là.
On sait que la culture de la pomme de terre, des vignes, de la pomme aussi, sont des cultures extrêmement consommatrices de produits phytosanitaires.
Oui.
Il y a des corrélations, j'imagine, avec...
Il y a des cultures qui demandent énormément de traitements. Et par exemple, le pommier fait partie des cultures qui demandent beaucoup de traitements. Et puis, le pommier aussi, c'est une plantation qui est en hauteur. Et donc, au niveau de la dispersion des produits, on a des dispersions sur le voisinage qui sont beaucoup plus fortes, à tel point que on a vu, nous, des pommiculteurs bio, hein, qui ont vu leur culture remise en cause par des cultures voisines à 500 mètres, et le produit va s'épandre sur des vergers bio. Hein. Donc là, il y a vraiment un problème qui n'est pas réglé, quoi. Bon, mais chaque culture a ses spécificités, a ses traitements, donc il faut faire attention. La culture de l'oignon, quand elle n'est pas bio, est problématique. On la trouve beaucoup dans le Finistère également. La culture de la pomme de terre, qui est devenue une culture qui s'est répandue beaucoup de façon industrielle dans les 10 dernières années. Ça aussi, c'est souvent une trentaine de traitements sur l'année. Tout dépend de la pluviométrie. Je voyais, par exemple, sur la question des produits, vous avez un produit qui s'appelle le prosulfocarb, qui est un produit qui est extrêmement volatile. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un grand vent pour qu'à 800 mètres, on retrouve des traces du prosulfocarb quand il a été épandu. Hein. Donc, on n'est pas sur des distances de 3, 5 ou 10 mètres. Hein. On est sur 1 kilomètre, quoi.
Oui. Donc, les réglementations actuelles, justement, de distance, vous paraissent-elles suffisantes ?
Ben absolument pas. Déjà, le respect des distances, c'est pas toujours ça qu'on constate. Hein. On voit bien que des gens épandent. Moi, j'ai vu dans le champ un peu plus bas il y a quelques jours, le vent était à 25 km/h. Or, on n'a pas le droit d'épandre en dessus de 19, trois Beauforts. Hein. La personne épandait quand même, quoi. Donc voilà, les réglementations ne sont pas respectées, les distances ne sont pas respectées. Et en plus, on s'en prend à l'Office français de la biodiversité qui fait des contrôles. Et même les ministères comme l'agriculture, par exemple, trouvent que quand même, faut pas embêter les agriculteurs qui travaillent. Il faudrait être un peu sérieux. Il faut quand même des contrôles parce qu'il faut que les réglementations soient aussi respectées dans l'intérêt de tous. Quoi.
On se rappelle d'une action qui était l'action des pisseurs volontaires de glyphosate qui faisaient recenser justement notamment leurs urines dans des laboratoires pour pouvoir... ensuite, porter cela potentiellement en justice, justement, est-ce que, quels sont les moyens de lutte utilisés par notamment le collectif des soutiens aux victimes des pesticides pour pouvoir faire avancer cette ces questions, et à quels sont les interlocuteurs?
Ben, pour nous, la difficulté qu'on constate assez régulièrement, c'est de réunir les preuves pour dire là, il y a eu un épandage ou il y a eu des cultures enfin, qui impactent les gens qui vivent à côté. Parfois, on a eu des solutions intéressantes de trouver. On voyait par exemple dans le Morbihan le cas d'une fillette enfin, qui était atteinte d'une maladie grave Et la maison était située au milieu de prairies. Puis tout d'un coup, ces prairies ont été achetées par quelqu'un qui s'est mis à faire de l'agriculture industrielle, ce qui a posé un très grave problème. En gros, il a été dit aux gens, mais pourquoi vous déménagez pas, quoi, puisque comme ça, vous serez à l'abri, quoi. Donc c'est pas celui qui épand les produits qui est en cause, c'est celui qui les subit. Mais ça, c'est pas rare de voir ça. Donc là, on a obtenu une négociation et la mairie avait bien aidé. Et donc, il y a eu un échange de terres, ce qui fait que celui qui faisait une culture industrielle a fait un échange de terres avec quelqu'un d'autre. Et puis, la situation est revenue à peu près à la normale. Mais je dis à peu près, parce qu'on est quand même loin du compte. Donc, nous, quand on a des problèmes aigus qui se trouvent posés, la seule possibilité, c'est de faire des analyses, des constats d'huissier et autres pour que la personne ne se trouve pas confrontée au voisin qui dit non, il n'y a rien de dangereux, mais qui ne dira jamais quel est le produit utilisé. C'est pas possible. Les rapports sont complètement inégaux. Mmh. Actuellement, les riverains sont très, très mal défendus. Mmh.
Très bien. La dimension, justement, vous travaillez évidemment avec les travailleurs agricoles, notamment, d'agriculture. J'imagine que les riverains aussi peuvent être intéressés par la ressource d'information que propose ce collectif.
Mais absolument. Mais vous savez, nous, dans notre association, nous avons 750 membres. Quand on voit la quantité de malades et que ces malades sont agriculteurs, on est une des associations qui a le plus d'agriculteurs parmi ses membres. Hein. Mmh. Il n'y a pas très longtemps, on avait l'occasion de dire aux gens de la FNSEA, vous savez qu'on a un point commun, c'est qu'on a à peu près les mêmes adhérents. Hein. Donc la différence, c'est qu'on aurait bien aimé que ceux qui défendent absolument l'agriculture productiviste se disent bah, « il faudrait peut-être arrêter de faire n'importe quoi et de protéger la santé des gens ». Moi, souvent, je fais un parallèle entre les pesticides et puis le problème de l'amiante. Hein. L'amiante a été interdit même aux États-Unis, en Angleterre et autres, bien avant la France. Et l'amiante, on disait, ça pose des problèmes parce que les gens l'utilisent mal, ne respectent pas des protocoles et tout. C'est pas vrai. L'amiante est dangereuse en soi et c'était extrêmement cancérogène. Et c'est à partir du moment où les produits à base d'amiante ont été interdits que, eh bien, on a fait reculer véritablement le problème. Nous, notre collectif s'est créé en se disant il faut aller à terme vers l'interdiction des pesticides. Pour nous, il n'y a pas d'autre solution. Si c'est ça la clé de voûte du système, c'est véritablement à ça qu'il faut s'attaquer. Donc on dit oui, mais si on utilise des buses antidérives, si on utilise certaines machines, etc., vous voyez bien que ça va moins polluer. Mais sauf que quand des agriculteurs utilisent des équipements de protection individuelle, les fameux EPI, et encore ils l'utilisent de moins en moins parce que ça ne protège pas vraiment, il faut voir que ceux qui sont à côté et qui reçoivent les produits, eux n'ont pas de combinaison protectrice pour se protéger. Donc on voit bien qu'il y a des failles dans le système à tout niveau, quoi. Mmh. Donc voilà, il faut être raisonnable, c'est pas aménager les pesticides qu'il faut, c'est de les interdire. Mmh.
De la même manière que l'amiante, comme vous le disiez.
Ben oui, l'amiante, la seule solution qui a été trouvée, ça a été l'interdiction. Les pesticides, la seule solution qui devra intervenir à terme, ce sera l'interdiction. Mais on voit bien qu'on n'en prend pas le chemin, ni au niveau européen, ni au niveau français. Parce que le discours des scientifiques n'est pas écouté, mais le discours des protecteurs de l'environnement n'est pas écouté, mais le discours des malades n'est pas écouté.
Merci à vous, Henri Bunel, pour donc cette présentation de l'action du collectif de soutien aux victimes des pesticides dans l'Ouest, en France. Rappelons-le, il y a un site internet.
Oui, il y a un site internet. Et puis, ben, on a aussi des documents qu'on peut se procurer auprès du collectif, où on a quand même des quantités d'informations, de témoignages. Sur ce que c'est que les pesticides, leurs dangers, etc. Donc, Voilà, il faut s'informer.